Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Eric Manila Kiza avec vous, Firmin Koyaweda sur la mise en onde. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Amérique et vous, consacré au 9e congrès du panafricanisme qui se tiendra à Lomé au Togo en 2024. Ce congrès historique s'inscrit dans la vision du grand intellectuel africain-américain Dubois, l'initiateur de ce forum visant à promouvoir l'unité et la solidarité des peuples africains à travers le monde. Aujourd'hui, nous examinons l'état actuel du mouvement panafricain, son héritage historique et les perspectives d'avenir pour ce mouvement d'une grande importance pour l'Afrique et sa diaspora. Nous sommes honorés d'accueillir dans cette édition de l'Amérique et vous, Gervais Nyaka Lagoke, professeur d'histoire et d'études panafricaines à Lincoln University en Pennsylvanie. Nyaka, bonsoir.
Bonsoir. Merci pour l'opportunité.
Je signale également que vous êtes président de la Convention pour le panafricanisme et le progrès, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Nous avons le professeur Jean-Claude Géréquet, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Il est aussi un analyste politique. Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à Lagoke.
Et à tous les auditeurs qui nous suivent.
Et à tous les auditeurs, oui.
Bienvenue encore une fois Jean-Claude. Nous aurons également Charlotte Medewe-Gezere, journaliste et femme engagée pour la promotion du genre. On essaie de la joindre et se trouve à Lomé au Togo. Sans tarder, Nyaka, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous nous donner un aperçu de l'historique du mouvement panafricain et de son importance pour la communauté africaine et afro-descendante?
Ok, merci. Et je vais le faire assez rapidement. L'esclavage a divisé les peuples africains. Et dans ce milieu cauchemardesque que représentaient les Amériques, les peuples de descendance africaine, inspirés par la montée des nationalismes pendant la révolution industrielle, ont commencé à concevoir des concepts d'unité. Le premier panégrisme articulé par W.B. Du Bois en 1898 dans un document appelé « La conservation des races ». Henry Sylvester Williams a utilisé le mot pour la première fois, dit-on, à la conférence de Londres en 1900. Et donc, il y a eu quatre systèmes d'oppression, quatre phénomènes. Et donc, la série des systèmes d'oppression, l'esclavage, la colonisation et bien d'autres. Il y a eu la série des théories racistes. Il y a eu la série des révolutions. Et il y a eu donc la série des mouvements nationalistes qui allaient conduire d'une certaine façon à trois mouvements précurseurs, l'éthiopianisme, le panégrisme dont j'ai parlé et le retour en Afrique. Et c'est dans le contexte du retour en Afrique, le Libéria et la Sierra Leone ont été créés. Et puis après, donc après la conférence de Londres, donc le mouvement a été articulé. Et bien plus tard, W.B. Du Bois allait commencer la série des congrès panafricains de 1919 à 1945. Gavé a, lui, organisé la série des conventions panafricaines. Kwame Nkrumah, qui était au congrès de Manchester en 1945, avec George Padmore, quand il devient le premier ministre du Ghana, allait, quant à lui, mettre sur pied la série des conférences de tous les peuples africains. Et quand l'OU a été créée en 1963, le mouvement panafricain va toucher donc le continent. Et après, l'Union africaine allait mettre sur pied la sixième région qui constitue la diaspora, alors que l'Afrique avait été subdivisée en cinq régions. Voilà brièvement le mouvement panafricain. Il s'agit donc de la nécessité de la souveraineté politique, économique et culturelle de l'Afrique pour que les Africains jouissent de leurs ressources et puis pour apporter quelque chose à la civilisation de l'universel.
Merci Nyaka pour cet aperçu historique du mouvement panafricain. Jean-Claude, quels sont les principaux défis et obstacles auxquels le mouvement panafricain est confronté aujourd'hui?
Celui qui m'a précédé a bien résumé l'histoire du mouvement panafricaniste. Ce que je voudrais ajouter, et ça me permettra de répondre à votre question, c'est que les expériences douloureuses, c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation, sont un peu comme l'élément déclencheur. C'est-à-dire que c'est ce qui a poussé les pères du panafricanisme à se dire que les Noirs ne pourront se sauver que s'ils sont unis et solidaires. Donc je dirais que les maîtres mots du panafricanisme, du mouvement panafricaniste, sont l'unité et la solidarité. Et il faut dire que, justement, après la première conférence de tous les peuples africains à Accra en avril 58, il faut dire que on a vécu cette unité, cette solidarité en Afrique. Par exemple, le Ghana. Le Ghana avait accordé un prêt à la Guinée de Sékou Touré lorsque la France, du jour au lendemain, a abandonné la Guinée à elle-même. La France est partie, n'est-ce pas, de ce pays-là. Et donc, la Guinée s'est retrouvée un peu vraiment démunie. Et Kwame Nkrumah, donc, a accordé un prêt à la Guinée à ce moment-là. Il y a aussi le fait que la plupart des militants de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, ont été hébergés, ont trouvé asile, n'est-ce pas, au Ghana. Et même, comment il s'appelle, le Zimbabwéen, mais à l'époque, bon, c'était pas ce nom-là, Mugabe a séjourné au Ghana. Vous voyez, je crois que c'est même là-bas qu'il a rencontré sa première femme, Sally, hein, après des études, n'est-ce pas, à Shimota College. Vous voyez. Bon, quand on prend en Afrique de l'Est, Nyerere, par exemple, a accueilli aussi des mouvements de libération, au moins leurs leaders, hein, les gens de la SWAPO, les gens de l'AMC, les gens du Frelimo, hein, mozambicain. Ouais, donc il y avait vraiment cette solidarité-là. Et malheureusement, aujourd'hui, et là, je voudrais maintenant répondre à votre question, j'ai l'impression que cette unité, cette solidarité n'existe plus. Vous voyez, prenez, par exemple, le cas du Mali, hein, le cas du Burkina, qui se battent, qui essaient, n'est-ce pas, de briser le joug de l'impérialisme français. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Ces deux pays-là, M. Baxel, on ne sent pas une solidarité des autres pays africains vis-à-vis du Mali et vis-à-vis du Burkina. Donc ça, c'est un problème, ça. Et donc, je pense que le panafricanisme, ici, vraiment, il est d'actualité. Il faut que les Africains comprennent que c'est, n'est-ce pas, par notre unité, par notre solidarité, que nous pourrons nous sauver. Vous voyez? Et là, vraiment, je pèse bien mes mots. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous sauver, c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Mais nous allons nous sauver comment? Par l'unité et par la solidarité. Donc je pense qu'aujourd'hui, le panafricanisme est plus que jamais d'actualité. Et nous interpelle, il nous appelle à l'unité et à la solidarité, comme, je veux dire, au commencement, avec les Marcus Garvey, avec les Georges Padmore, hein, tout à l'heure, Nyaka le disait, Henri Sylvester Williams, hein, et le Webb Dubois. Parce que c'était ça leur rêve, c'était ça leur vision, l'unité et la solidarité de tous les Noirs. Ouais, alors, j'en profite pour dire que, justement, quand on prend le mot même panafricanisme, il y a le préfixe grec pan, qui veut dire tout. Et c'est un préfixe qu'on retrouve dans certains mots, comme le panthéon, c'est-à-dire là où habitent tous les dieux, ou bien la panacée, hein, c'est-à-dire le remède universel qui guérit tout. Ouais, donc, quand on parle de panafricanisme, je crois qu'on a tendance à parler uniquement, n'est-ce pas, de l'Afrique subsaharienne. Or, je crois que le panafricanisme englobe toute l'Afrique. Donc, il y a aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche. Et justement, à l'époque de Nkrumah, il y avait cette solidarité-là. Hein? C'est-à-dire que, le président égyptien d'alors, Nasser, par exemple, Nasser a apporté un soutien militaire, financier à beaucoup de mouvements de libération nationale en Afrique. Vous voyez? Donc je crois que c'est important de le souligner. Quand on parle de panafricanisme, ce n'est pas seulement l'Afrique au sud du Sahara. Hein, et, bon, c'est aussi les Noirs hein, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, en Amérique, et qui sont aussi dans les Caraïbes. Mais je voulais vraiment souligner cet aspect-là de l'Afrique du Nord. Je crois que des gens comme Nasser ont montré qu'il fallait qu'on soit ensemble. Il fallait qu'on soit unis, il fallait qu'on soit solidaires.
Plus tard, il y a eu Kadhafi aussi. Charlotte est déjà avec nous. Charlotte, bonsoir.
Bonsoir, cher Eric.
Oui, je signale que vous êtes aussi représentante pays depuis 2015 de la Fondation Ses Fils. Vous êtes journaliste et femme engagée pour la promotion du genre. Le 9e congrès du panafricanisme, donc, qui va se tenir chez vous, à Lomé, en 2024. Qu'est-ce qui a motivé le choix du Togo en tant que pays hôte de ce congrès, Charlotte?
Merci. D'abord, je tiens à vous dire merci pour l'invitation à intervenir sur votre chaîne. Je voudrais profiter aussi pour dire merci à tous les acteurs impliqués dans l'organisation du 9e congrès panafricain de Lomé. Félicitations en particulier au ministre, au chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Doucet, pour la vision et son rôle d'acteur de premier rang. Merci. J'ai une pensée également à mon co-présentateur de ce lancement, depuis Paris, Claude Ichiard, un panafricaniste convaincu. Alors, pourquoi le Togo va-t-il abriter un tel événement? Il faut dire que notre pays est à l'origine de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine 2020-2031, un vaste projet donc, qui comprend également ce congrès sur le panafricanisme qui va se tenir en 2024. Un projet vraiment voulu et porté par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Africains et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet. Donc voilà ce qui explique pourquoi l'événement sera tenu à Lomé.
Alors, il y a eu cette conférence de lancement et de présentation du congrès qui a eu lieu le 22 mai dernier, toujours à Lomé. Comment cette conférence a-t-elle été perçue par les participants et quelles sont les principales idées qui en sont ressortis?
Vous savez, le panafricanisme n'est pas en tant que tel une notion toute nouvelle pour les Africains, surtout pour la jeunesse africaine. Cependant, initier une rencontre d'échange pour la présenter à nouveau et surtout l'expliquer au grand public est une initiative et une démarche que personnellement je qualifierais de pédagogique, mais important pour éveiller les consciences et surtout attirer l'attention des uns et des autres sur l'urgence de l'heure. Une urgence parce que, voyez-vous, nous vivons aujourd'hui dans un monde en pleine mutation et l'Afrique a plus que jamais désormais intérêt à occuper une place qu'elle mérite dans les discussions des enjeux sur les enjeux géopolitiques ou économiques dans tous les domaines, tout ce qui concerne le développement durable dans le monde, l'Afrique doit y avoir sa place. Donc un si grand rendez-vous, c'est l'occasion donc de réunir les fils et filles africains, les intellectuels, pour discuter ensemble de cet avenir que nous rêvons pour l'Afrique. Les grandes idées partagées et sur lesquelles bon nombre ont été unanimes, je citerai d'abord la place, justement, comme je le disais tantôt, la place faite à l'Afrique et aux Africains aujourd'hui, aux afro-descendants, sans les oublier, ou même les Africains de la diaspora sur la scène internationale, est insuffisante. C'est un constat partagé par tous. Et une place méritée à l'Afrique permettrait justement au continent de jouer pleinement de sa participation en tant que continent et les Africains en tant que peuple du monde, parce que oui, nous faisons partie du monde. Et outre, c'est sur cette question... Beaucoup de gens ont été unanimes. Et une autre idée qui a particulièrement retenu mon attention et que je qualifierais de recommandation sortie des échanges, c'est que bon nombre ont estimé qu'il est temps à ce que l'Afrique, aujourd'hui en tant que continent, obtienne au moins, ne serait-ce qu'un siège au Conseil permanent un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui va justement permettre au continent d'aussi participer aux grandes décisions et pour ne plus avoir qu'à subir, mais aussi avoir l'opportunité d'agir et d'influencer les grands débats. Un
C'est une
deuxième
idée
point
que
que
les
j'aimerais bien
États-Unis
partager.
ont soutenue à Charlotte Nyaka. Je reviens vers vous. Comment le panafricanisme peut-il être un moteur de développement et de progrès pour l'Afrique dans un contexte mondialisé? Et quelles sont les initiatives actuelles qui illustrent cette vision? Si vous voudriez prendre 2 minutes, Nyaka.
Alors, 2 minutes. Bon, je vais d'abord prendre 30 secondes pour apporter un petit rectificatif à la brillante prestation de Jean-Claude Jereke. En avril au Ghana, en 1958, la première conférence qui a eu lieu, c'était la conférence des États africains indépendants. Ils étaient 8 au départ, et la conférence de tous les peuples africains, elle a réuni près de 300 participants, leaders politiques, le Lumumba, les Frantz Fanon. C'est qui a eu lieu, c'est cette conférence qui a eu lieu en décembre 1958. Maintenant, Charlotte a dit de très bonnes choses. Effectivement, ce qui s'est passé au Togo, c'était le lancement. Et voilà, elle a fait, moi aussi, je m'associe à elle pour féliciter le ministre des Affaires étrangères du Togo, son Excellence le professeur Robert Dussé. Et puis Jean-Claude Sia, parce qu'il est temps que les Africains arrivent à se mettre ensemble au-delà de nos divergences. Et donc, si le Togo a pris l'initiative, même si on ne reconnaît pas le Togo comme une nation panafricaniste comme les autres, et que le Togo prend cette initiative, il faut donner le bénéfice du doute au Togo. Et puis, il faut essayer d'accompagner le processus pour que le panafricanisme se répande comme une traînée de poudre sur le continent africain. C'est ce qui explique ma présence là-bas et c'est ce qui explique mon engagement à soutenir ce processus. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, très simple, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. On a vu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a vu comment la grande puissance américaine arrive à rassembler les pays de l'Union européenne pour qu'ensemble, ils fassent front contre ce qu'ils appellent le péril russe. Donc c'est la même chose que les Africains doivent comprendre pour survivre dans ce monde, c'est dans l'unité. Donc un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas résister contre la puissance américaine si elle n'est pas soutenue, enfin, si le pays n'est pas soutenu par les autres pays africains. Le deuxième élément, il faut que les Africains contrôlent leurs ressources. Les multinationales ne peuvent pas continuer d'exploiter nos ressources et donner 6% à nos États et puis emporter des milliards de milliers de dollars et espérer que l'Afrique va être indépendante. Donc, et que l'Afrique va connaître le bonheur et l'Afrique va connaître la prospérité. Pour ne pas aller loin, donc il faut qu'on contrôle nos ressources, c'est ce que Kwame Nkrumah a dit. Il faut qu'elle puisse être exploitée, transformée sur le continent africain, et puis et que ces ressources-là puissent produire de la prospérité pour le bonheur des populations africaines. Voici l'élément le plus important, et je n'ai pas besoin de faire notre discours.
Jean-Claude, quand on parle du panafricanisme, il y en a qui pensent que c'est un vieux pieu, parce que dans plusieurs pays, l'Africain, il est étranger chez lui, il n'est pas le bienvenu chez lui, même chez son voisin. Et mon autre question, quel rôle les jeunes générations peuvent-elles jouer dans la promotion et la réalisation des idéaux panafricains?
Moi, je pense que les jeunes ont plutôt à marcher dans les pas des fondateurs. Les pères fondateurs, c'est-à-dire d'Nkrumah, de Nasser, de Nyerere, qui ne se voyaient pas d'abord en tant que Tanzaniens, en tant que Ghanéens, en tant que Égyptiens, mais plutôt en tant qu'Africains. Hein, donc, c'est la première chose. Ça. Il faut que nos jeunes se pensent d'abord en Africains. Voilà, Africains du Burkina, Africains du Sénégal, etc. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'ils se mettent ensemble. Et moi, j'ai été heureux d'apprendre que des jeunes Maliens, par exemple, s'étaient rendus au Burkina pour soutenir ce qui se passe là-bas actuellement. Hein, je crois que ce sont des initiatives qu'il faut encourager, et qu'il faut multiplier sur le continent. Hein, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils échangent, n'est-ce pas, leurs idées, hein, leurs rêves. Je crois que c'est important. Ouais, donc moi, je ne suis pas pessimiste, je suis afro-pessimiste, et pardon, afro-optimiste. Et je pense que les jeunes ont compris aujourd'hui l'importance, n'est-ce pas, du panafricanisme et l'urgence qu'il y a, n'est-ce pas, à le mettre en œuvre. Je crois que beaucoup de jeunes ont compris ça. Et ça, il faut le dire, c'est un peu grâce hein, aux médias sociaux, grâce à Facebook. Ça, il faut le souligner. Mais c'est une bonne chose. Et moi, je pense qu'il faut, il faut encourager les jeunes à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire à se rencontrer, hein, à travailler ensemble, à se mettre ensemble. Il faut encourager ça.
Charlotte, comment les médias et la société civile peuvent-ils soutenir et encourager le panafricanisme en une minute?
Voyez-vous, j'ai la chance moi-même déjà de travailler en tant que journaliste et d'intervenir sur une chaîne qui se veut panafricaine. Donc, le lancement du congrès le 22 mai dernier a été une phase introductive. Reste maintenant à vulgariser le message. Et d'ici 2024, à mon humble avis, je pense que les médias et la société civile africaine ont un rôle crucial à jouer aux côtés des acteurs des premiers acteurs impliqués. C'est déjà de multiplier des productions et de mener des actions de formation ou de sensibilisation sur le panafricanisme. Et pour ce faire, ces deux acteurs clés doivent être impliqués dans les grandes phases à venir avant 2024. Les médias sont là pour faire passer le message et je pense que ce sont... Les médias, comme la société civile, sont des acteurs incontournables pour espérer atteindre les résultats escomptés de cette initiative.
Il nous reste moins de 3 minutes pour finir cette émission. On va partager le temps qui nous reste. Jean-Claude, je commence avec vous. Comment pouvons-nous renforcer les liens entre les diasporas africaines et le continent lui-même pour favoriser une coopération mutuellement bénéfique? Quelles sont les opportunités à saisir dans ce domaine?
Mais moi, je pense que nos frères qui sont, n'est-ce pas, ici, dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe, parce que nous avons, enfin, ceux qui sont dans la diaspora ont plus de facilité à voyager. Je pense que c'est plutôt à eux de faire cet effort-là, de se rendre sur le continent pour, n'est-ce pas, rencontrer, n'est-ce pas, les Africains qui sont sur le continent. Échanger avec eux, mettre ensemble, n'est-ce pas, envisager comment libérer, n'est-ce pas, le continent, parce que je crois que c'est ça le défi aujourd'hui, hein, c'est-à-dire comment arriver, n'est-ce pas, à avoir une armée commune, une monnaie commune, une banque commune. C'était ça le rêve, n'est-ce pas, des pères du panafricanisme. Et je pense que les Noirs qui sont dans la diaspora, hein, comme je l'ai dit, ils ont plus de facilité de voyager. Mm-hmm. Et donc, c'est à eux de faire le premier pas, d'aller sur le continent pour rencontrer leurs frères qui sont là-bas.
Nyaka, en quelques secondes, la même question. Nyaka, vous êtes là?
Oui, je suis là. Quelle est la question?
Comment pouvons-nous renforcer les liens entre les diasporas africaines et le continent lui-même?
Oui, bon, cela, ça se fait déjà. Ça, peut-être ça peut aller par moment en hibernation. Nous sommes là, nous sommes les acteurs. Je suis d'Afrique, je suis ici aux États-Unis. Je travaille avec des Noirs américains, je travaille avec d'autres Africains de la diaspora. Et nous engageons un débat permanent. Et aussi avec des gens qui ne sont pas des Noirs, mais qui croient en l'internationalisme. Et comme moi, ils sont nombreux. Et donc, le congrès du Togo est une opportunité pour rallier toutes ces personnes-là. Et donc, et les choses se passent. Jean-Claude a parlé des Africains qui...
Oui, merci Nyaka. Il nous reste plus de temps. Merci. Charlotte, une opportunité à saisir dans ce domaine en quelques secondes.
Merci d'inviter tout le monde à participer au débat. Je pense que d'ici 2024 seront tenus dans différents pays et ici à Lomé des ateliers, des tables rondes de discussion. Donc j'aimerais inviter tout le monde, les intellectuels africains, à répondre favorablement à cette invitation et pour contribuer intellectuellement
au débat. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Gervais Nyakalagoke. Merci, Jean-Claude Jereke. On parlait de ce 9e congrès du panafricanisme qui se tiendra à Lomé au Togo en 2024. Eric Manirakis a été avec vous au micro. La firme Koyaweda.